m'avez dit de me méfier.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Bonsoir aux auditrices, aux auditeurs de Principe Actif. Donc, nous sommes de retour sur l'antenne pour notre deuxième émission mensuelle. Je pense que vous avez maintenant intégré l'idée qu'on est présent sur l'antenne de Principe Actif deux fois par mois, le dernier mardi et 15 jours avant. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'est le dernier mardi du mois d'octobre. Donc, on est là, bien sûr. Avec moi, donc, c'est le groupe d'Amnesty International Évreux pour vous parler de l'actualité et des dossiers sur la situation des droits humains dans le monde. Avec moi, il y a Claire-Lise.
Bonsoir.
Il y a Mina.
Bonsoir.
Qui a attrapé son micro, parce que Mina, comme elle n'est pas très grande, elle a attrapé son micro pour pouvoir parler bien dedans.
Pas de discrimination, yeah, s'il vous plaît.
Ah, ce n'est pas une discrimination de dire que
non,
quelqu'un
est petit. Non, mais ça
fait roqueuse.
C'est un constat. C'est un constat.
Et d'ailleurs, en parlant de rock, oui, tu voulais nous parler de Bob Dylan?
Oui. Mais je voulais vous parler de Bob Dylan, mais on ne le passera pas ce soir. Donc,
oui, mais
tu
justement,
vas
il faut quand même l'honorer. Il oui. faut honorer Bob Dylan.
Oui.
Mais attends, the wind in the wind.
Mais je n'ai pas fini la présentation. Donc avec nous, il y a Ronan. Il y a
les boutons. Je croyais qu'il allait m'oublier, mais bon, non, c'est pas grave.
Et puis
Didier.
Voilà, merci. Donc oui, alors Mina vous a déjà parlé du fait que Bob Dylan, vous avez dû l'entendre aux actualités, Bob Dylan a eu le prix Nobel de littérature la semaine dernière, si je ne m'abuse.
Oui, tout
et
à fait.
Et bon, nous, ça nous concerne un petit peu, puisque Bob Dylan est quand même quelqu'un qui a soutenu de très nombreuses campagnes d'Amnesty International et qu'il a fait don de beaucoup de chansons à Amnesty qui ont été enregistrées sur un quadruple CD qui est paru il y a quelques années maintenant et qui s'appelle, en soutien à Amnesty, qui s'appelle « Chimes of Freedom ». C'est-à-dire les carillons de la liberté. Voilà. Donc, un petit coup de chapeau à Bob Dylan en passant. Et puis, on espère que ça lui a fait plaisir de recevoir ce prix. Mais j'avoue qu'il ne m'a pas envoyé de mail personnellement. Donc, je n'ai pas la confirmation.
Et pour le petit côté culturel, son dernier album, c'est Fallen Angels.
Ah, là, tu m'apprends quelque chose. Mina est très forte sur le côté
culturel. Là, j'applaudirai dès demain.
D'ailleurs, elle va animer une longue chronique culturelle tout à l'heure. Alors, ce soir...
Et est-ce qu'on peut dédier l'émission à une petite fille qui vient de naître et qui s'appelle Gloria, dont je vais vous parler tout à l'heure?
Tout à fait.
Voilà.
Aucun problème.
Donc, bienvenue à Gloria.
Voilà, donc l'émission est dédiée à Gloria.
C'est une chanson,
ça. Vous allez comprendre pourquoi. Non, mais on va essayer de se discipliner parce que voilà, faut pas qu'on s'interrompe tout le temps. Je dis ça parce que l'autre fois, effectivement, il y avait une séquence où on avait parlé plusieurs en même temps. Et dans ces cas-là, effectivement, ce n'est pas très audible. Ce soir, donc, plusieurs informations. On va vous parler de Turquie. Une actualité qui est un petit peu oubliée en ce moment, mais la répression en Turquie continue et les atteintes aux droits humains en Turquie continuent. Donc, je vais vous faire un petit point sur la question. On va vous parler de choses assez positives quand même, parce que la dernière fois, on avait centré l'émission aussi sur des choses assez dramatiques autour des bombardements sur Alep, qui bien sûr continuent. Hein, ça, on n'est pas du tout inconscient que le drame là-bas continue et que les gens continuent à se faire massacrer par les bombes, entre autres les bombes russes envoyées par monsieur Poutine et par monsieur Bachar el-Assad. Mais donc, on a décidé quand même ce soir de vous parler aussi un peu de choses qui évoluent dans le bon sens. Il faut aussi savoir s'arrêter sur ce qui se passe de bien. Et donc, on va vous parler de migrants à Évreux. C'est Claire-Lise qui va vous en parler. Moi, je vais vous parler d'une action, d'un bouquin qui est en train de se faire par rapport à un migrant d'origine afghane et qui se fait dans la région en Savoie. C'est un article qui est paru dans le dernier numéro de la chronique. La chronique, c'est le mensuel d'Amnesty International. Si vous avez envie de vous abonner, je le dis régulièrement, vous allez sur le site d'Amnesty, www.amnesty.fr. Vous avez la possibilité de vous abonner à la chronique qui est notre mensuel d'information. Voilà. Et puis, donc une rubrique culturelle qui va être co-animée par Mina et par nous-mêmes, d'ailleurs aussi. On va y participer à plusieurs. Et donc, je voulais commencer par vous parler un peu de bonnes nouvelles. de bonnes nouvelles, enfin disons d'informations positives, plus exactement. Les bonnes nouvelles, c'est la spécialité à Ronan, donc il vous en parlera aussi tout à l'heure. On a entendu la fois dernière des choses tout à fait dramatiques, mais cette fois-ci, il y a quand même des choses qui sont positives, qui se passent. Il y a régulièrement des maires qui prennent position en France, malheureusement, contre l'accueil des réfugiés et des migrants, en disant « on n'en veut pas chez nous ». Je caricature même pas. C'est annoncé comme ça. On n'en veut pas chez nous. Et donc, il y a des citoyens qui se mobilisent pour dire exactement le contraire. Et moi, j'ai relevé dans les actualités tout à fait récentes, là, ces derniers jours, trois choses positives. Il y a à Chamonix, 300 habitants. Chamonix, c'est en Savoie. 300 habitants qui se sont rassemblés pour lutter contre une initiative du Front National. Il y avait quelques militants du Front National qui étaient arrivés. Par rapport à la décision du maire d'accueillir, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais enfin, je crois que c'était une trentaine de migrants et de réfugiés sur la commune de Chamonix. Et donc le Front National a envoyé des représentants pour dire « on n'en veut pas ». Et il y a 300 habitants de Chamonix qui se sont rassemblés pour dire au Front National « c'est nous qui ne voulons pas de vous ». Voilà. En gros, ils ont dit effectivement « bienvenue aux migrants ». Et les militants du Front National ont été obligés de prendre la poudre d'escampette. C'était samedi matin, de prendre la poudre d'escampette sous la protection des gendarmes mobiles qui étaient venus là. Donc après, effectivement, le maire a pu faire une intervention en remerciant la population de son intervention en soutien aux migrants et aux réfugiés qui arrivent à Chamonix. Donc ça, c'est une bonne information. À Saint-Brévin-les-Pins, c'est en Loire-Atlantique. J'ai de la famille à Saint-Brévin-les-Pins, donc s'ils m'écoutent, je ne pense pas, je leur fais un petit salut au passage. À Saint-Brévin-les-Pins, il y a également des gens qui se sont mobilisés, un certain nombre de citoyens qui se sont mobilisés pour dire qu'ils accueillaient à bras ouverts, eux aussi, des réfugiés qui devaient s'installer dans la commune. Donc une autre information qui va dans le même sens. Et la troisième, ça c'est pour Ronan. J'ai trouvé ça aujourd'hui en préparant l'émission sur le net aussi ou sur Facebook, je ne sais plus, à Trébordaine. C'est où Trébordaine?
Déjà, c'est Trébordain qu'on dit.
Oh, Trébordain. Attention, parce que Ronan est très, très à cheval sur tout ce qui touche à la Bretagne.
Non, mais c'est pas mon coin du tout.
Bon, donc, c'est où alors Trébordain. Tu sais où c'est, Ronan? Il a un trou.
C'est un trou.
Le breton, n'a pas la réponse.
Je crois que c'est en Bretagne.
Oui.
C'est nord ou sud?
C'est pas dans le Finistère?
Non, moi, je pense que c'est dans le nord.
Oui, c'est peut-être dans la Côte d'Armor, peut-être. C'est possible.
Ouais, mais moi, je suis un gars du Sud.
Donc, voilà. Donc, il y a eu aujourd'hui tout un comité d'accueil qui a été fait pour... Hier, je crois. Un comité d'accueil qui a été fait pour accueillir 29 migrants qui viennent de la jungle de Calais, qui est en cours de démantèlement. Donc, là aussi, il y a un comité d'accueil de gens, d'associations qui sont mobilisés, disons, coordonnés aussi par les autorités municipales, pour souhaiter la bienvenue à ces 29 personnes qui sont arrivées en bus. Donc, c'était hier. Voilà. Donc, comme quoi, effectivement, il n'y a pas que des gens qui se mobilisent contre la venue des migrants et des réfugiés. On répète ce qu'on vous a déjà dit. Hein, ces gens-là ont des droits fondamentaux, comme tout le monde. Et les réfugiés ont le droit d'être protégés. La France a signé tous les textes pour protéger les réfugiés. Et toute action qui vise à minimiser l'accueil des réfugiés est une action qui s'oppose aux engagements qu'a pris notre pays vis-à-vis de tous les textes internationaux. Voilà. Donc ça, on dit ça aussi. Mais enfin, Clarisse vous en dira plus tout à l'heure. Elle a quelques remontrances à faire, je crois, aux autorités locales.
Je suis remontée.
Voilà. Bien. Et donc, pour continuer sur le même sujet, je vais donc vous faire un petit compte-rendu sur cet article qui s'appelle « Réfugiés, la leçon des glières », donc qui est paru dans la chronique. Alors, je vais vous lire juste le début, après je vais vous expliquer pourquoi je vous en parle. Alors, ça commence comme ça. Je rappelle que les glières, c'est un plateau, en Savoie, je crois, ou en Haute-Savoie, je ne sais plus, ou qui a été un lieu de la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1944, qui a eu des combats épiques entre la résistance des milices et les forces nazies. Et donc c'est un haut lieu de la résistance française par rapport à l'occupant. Donc l'article commence comme ça. Mais qu'est-ce qu'il fout, Beige ? Benjamin, 17 ans, est en retard. Normal, il ne répond pas au téléphone. Ça, c'est anormal. Ça m'embête de partir sans lui. Il s'est beaucoup investi dans le projet. Alice Neves s'impatiente. Le temps est compté. Presque 13 heures. Le retardataire arrive enfin. Soulagement de l'enseignante. Ses 15 élèves sont présents. Kerola, leur héros afghan, aussi. Le bus peut enfin démarrer. Direction, le plateau des Glières, à une heure de route. Programme, une journée et demie d'écriture à 1450 mètres d'altitude pour mettre un point final à la rédaction du carnet d'exil de Kerola et après de 2 années de collecte d'informations. Alors, En fait, ce réfugié afghan, donc, qui s'appelle Kerola, a été en fait est installé donc dans le je ne sais plus si c'est marqué la localité où ça se trouve, mais enfin bon, peu importe, est installé en Savoie depuis pas mal de depuis plus d'un an. Et donc les élèves d'un établissement scolaire ont décidé en fait de raconter son histoire sous la forme d'un bouquin. Donc l'enseignante en question, Alice Nevez, expose le programme des prochaines 36 heures, entourée d'Angèle Farsi, chargée de coopération internationale à l'Institut des sciences de l'environnement et des territoires d'Annecy, dit ICETA, c'est l'établissement scolaire en question, et de Sébastien Tchiskevdjik, ça c'est pour Renan parce que c'est un nom aussi assez difficile à prononcer, professeur d'histoire. Nabil Louar, écrivain français et savoyard d'origine algérienne, partenaire souvent cité par Angèle Narcy, retrouve la joyeuse équipe. Alors, Alice Nevez, dont on parlait, professeure d'anglais et d'éducation socioculturelle, n'en revient toujours pas. Ce sont des jeunes, elle parle des élèves qui donc se sont lancés dans l'écriture de bouquins. Ce sont des jeunes qui ne lisent pas, n'écrivent pas et ne regardent pas toujours ce qu'il se passe autour d'eux. Leur passion, c'est la pêche, pas les livres. Quand ils m'ont annoncé vouloir écrire le récit d'exil de Kerola, j'ai été bluffé. Mais je les ai mis en garde. Si vous décidez de vous engager, vous allez jusqu'au bout. Toute sa vie, Kerola a été abandonnée, trahie, maltraitée. Vous n'avez pas le droit de laisser tomber. Ces garçons-là ont le verbe haut, le pantalon de survêt bas et une parole qui vaut de l'or. Leur pote Kerola, ils ne l'abandonneront pas. Le périple littéraire a commencé en janvier 2015, quelques jours après les attentats de Charlie Hebdo. L'esprit pollué par une quantité de questions et d'informations lit sur les réseaux sociaux, les secondes d'aquaculture de Madame Nevez ont rendez-vous avec Kerola. Depuis quelques semaines, ils le croisent dans l'enceinte de l'établissement, lui serre la main et échange avec lui quelques mots d'ado. Kerola n'est pas scolarisé à l'ICETA, il est apprenti en bleu de travail, en CAP maintenance des collectivités. Le champion de la soudure à l'arc, comme le décrit son patron, Vincent Viard, entre dans la classe et se pose devant les 15 garçons. Il s'excuse de son niveau de français, puis déroule l'histoire qui est la sienne, de la disparition de ses parents morts dans le bus qui les conduisait à Kaboul quand il avait 10 ans, à son arrivée à Annemasse, du côté du lac de Genève, en juillet 2013. Il précise appartenir à une minorité chiite en Afghanistan, les Hazaras. Il raconte la blessure causée par l'abandon de Fezola, le petit frère de 7 ans. Il décrit les montagnes du Pakistan, le premier mort, et retrace les milliers de kilomètres parcourus avec la menace des policiers, des gardes-côtes, des passeurs. Il dit le froid, la faim, les vaines tentatives, les humiliations, le labeur sous le soleil d'une marbrerie, en Iran, à plus de 50 degrés. Il décrit les dollars enroulés dans du scotch pour les préserver de l'eau. Il se protège de la prison, attentif à son petit sac à dos, l'indéfectible compagnon de route, le sanctuaire des rares photos de famille et de ses papiers d'identité, bientôt avalé par la mer entre la Turquie et la Grèce. Kerola a parlé pendant une heure. À la fin, j'ai demandé aux élèves s'ils avaient des questions. Il y avait un silence de plomb. Ils étaient soufflés, se souvient l'enseignante. Une semaine plus tard, remontés comme une pendule, ils lui disent « Il faut faire quelque chose. Le lycée est grand. On va tous se cotiser pour faire venir en avion le petit frère. » « Impossible, leur répond-elle. Ils ne se démontent pas. Un petit groupe a cette idée saugrenue. Alors on va écrire un livre pour que tout le monde sache ce qu'il a vécu. » Alors, pour préparer le bouquin, ils ont décidé de faire 4 groupes. Un pour chaque pays traversé. L'Afghanistan, l'Iran, la Turquie et les pays européens, se souvient Thomas. C'est un des rédacteurs. De retour en salle de classe, Nabil propose un premier exercice aux adolescents. Nabil, c'est l'enseignante, hein, je rappelle. Parce qu'on ne peut pas presser Kerola comme un citron. Un mot pour qualifier l'émotion de leur première rencontre avec le jeune Afghan. Silence d'abbaye. Les bustes se penchent sur le petit carré de papier blanc. Après quelques instants, Nabil scotche des feuilles au tableau, les lit à voix haute et demande à leurs auteurs de préciser les termes. Tristesse, courage, incroyable, touchant, impressionnant, émouvant, exceptionnel, époustouflé. Quand je leur ai serré la main, la première fois, je me suis dit que c'était un ado comme nous. Je l'ai entendu, son accent, mais j'aurais jamais cru, explique Ariel. Je ne pensais pas que j'aurais pu faire ce qu'il a fait. À 11 ans, c'est incroyable. Alors bon, après, je vais vous résumer. Après, il se suit effectivement l'explication sur la rédaction de ce bouquin et la conclusion d'un des rédacteurs qui s'appelle Maxime et qui dit « Kerola, c'est un garçon de notre âge. C'est pour ça que ça nous a autant touchés. Ceux qui ont la haine, Je suis en colère contre eux. Ils ignorent tout. Pour eux, les immigrés, ce sont des gens qui viennent pour toucher le RSA, les mains dans les poches. Ce n'est pas du tout le cas. Quand on connaît l'histoire de Kerola, ce qu'il a vécu, les atrocités, c'est impressionnant. Et si demain, l'ami Kerola n'était plus le bienvenu en France, je serais dégoûté. Je ne trouverais pas ça normal. Je n'ai jamais vu quelqu'un bosser comme ça. Avec tout ce qu'il a vécu, il est intégré. Il n'a pas à changer. Il doit rester en France. Sa place, c'est ici, pas ailleurs. C'est tout. Voilà, donc je pense que c'est suffisamment éloquent, effectivement, pour nier aussi un certain nombre. On parlait du Front National tout à l'heure et de ce qui s'est passé à Chamonix. Voilà, donc c'est suffisamment éloquent pour nier tout ce genre d'inepties qui sont véhiculées par ce genre de parti et d'autres par rapport aux réfugiés et aux migrants. Alors, je précise pour terminer que le bouquin, en fait, il est édité. Alors, je ne sais pas s'il est sorti, je ne crois pas encore. Il est édité à compte d'auteur par les gens qui l'ont écrit. Et si vous voulez les aider, alors, il y a un site qui s'appelle KissKissBankBank. Alors, bon, ça s'écrit. KissKissBankBank.com. C'est un site de participatif pour soutenir financièrement, c'est ça ?
Tout à fait.
C'est ce que j'ai cru comprendre. Et donc, le bouquin s'appelle « Carnet d'exil de notre ami Kerola ». Enfin, vous allez sur le site de KissKissBankBank, comme ça se prononce, .com, et vous trouverez les renseignements. Je ne pense pas que le bouquin soit encore édité.
Mais non, KissKissBank, en fin de compte, c'est pour participer. Ils ont une somme d'argent auquel il faut arriver. Ça. Et si on atteint cette somme d'argent, ils vont éditer le bouquin.
C'est ça. Enfin, de toute façon, ça vient de sortir dans la chronique.
Ils le font au niveau de la musique, au niveau de plein de choses.
Donc, on sera au courant de la suite. Et bien sûr, si le bouquin apparaît, on vous indiquera où le trouver. Il n'y a pas de souci. Mais c'est un bouquin à acheter. Effectivement, quand ce sont des jeunes adolescents qui parlent de la détresse d'un autre adolescent réfugié, c'est d'autant plus parlant parce qu'effectivement, ils parlent en connaissance de cause. On va continuer sur les migrants, mais cette fois l'actualité locale. Et il y a Claire Lise qui est donc remontée comme une pendule.
Eh bien oui, ça fait quand même plusieurs fois que je viens vous rejoindre.
Trois émissions, je crois.
Ça fait trois émissions parce qu'en fait, on est confronté. Donc vous savez que je suis membre d'Amnesty, mais je suis aussi membre de l'association CFED Asti d'Evreux. Et je participe à l'accueil des personnes migrantes le samedi matin au CFED. Et on est confronté de plus en plus à des situations dramatiques. Alors déjà, dans l'actualité locale, j'ai regardé sur Internet les actualités d'aujourd'hui. Et donc, dans Paris-Normandie, il y a un article sur l'arrivée des migrants venant de la jungle de Calais qui sont arrivés hier soir à Évreux. Donc, effectivement, toutes les régions sont concernées et on peut ne souhaiter un bon accueil aux personnes qui sont arrivées hier soir en car et donc qui ont été accueillies au CAO tenu par ISOS. Donc ce sont des personnes originaires du Soudan et d'Afghanistan pour la plupart. Ce sont de jeunes hommes et ils sont au nombre de 27 ou 28, il me semble. Et donc ils vont être accueillis avenue Maréchal Foch et rue Lacanale, donc dans deux centres du CAO d'ISOS. Jusqu'à présent, tout va bien. Ils ont été accueillis avec le gîte, le couvert, être au chaud parce qu'ils sortent quand même d'un campement où ils étaient dans la boue. Alors effectivement, il y a eu des réactions dans la presse et notamment des réactions du maire d'Evreux. Donc le maire d'Evreux, Monsieur Guy Lefranc, s'étonne quand même d'avoir été mis au courant très très au dernier moment en fait de l'arrivée des migrants à Évreux. On en parle quand même depuis des semaines, on pouvait s'en douter. Et donc il parle de mépris de la part des responsables de l'État vis-à-vis des élus locaux. Mais mon cher Guy, qui méprise qui ? Parce que rappelons-nous, et là j'ai la dent dure et je vais vraiment pas être gentille aujourd'hui. Il y a un an, la section locale d'Amnesty International Évreux a écrit au maire Guy Lefranc une gentille lettre en lui demandant s'il pensait accueillir des Syriens à Évreux.
Tout à fait.
Vous en rappelez ?
Oui, ça fait même un an et demi qu'on avait écrit.
À ce jour, monsieur le maire d'Évreux n'a pas répondu, ne nous a toujours pas répondu. Et je pose une deuxième question, qui méprise qui ? Le 7 septembre 2016, je vous ai parlé d'un collectif migrant. Alors, c'est un collectif migrant comportant 10 associations. Alors, le Comité catholique contre la faim et pour le développement Terre solidaire, le Réseau d'éducation sans frontières, la Ligue des droits de l'homme, le Comité étranger français pour l'égalité des droits, donc le CEFED-ASTI, l'Association de soutien à tous les émigrés, le Secours catholique, la Pastorale des migrants, l'Association 109 à Netreville, la Maison de l'Éternel, la DIR, la CME. Tout ce collectif migrant a donc écrit le 7 septembre 2016 au bureau municipal de la ville d'Évreux. Monsieur le maire, mesdames les adjointes au maire, messieurs les adjointes au maire. Je vais vous lire le courrier puisque je faisais partie de ce comité parce qu'à ce jour, nous n'avons eu aucune réponse. Donc je demande à monsieur le maire d'Évreux qui méprise qui. Depuis plusieurs années, nombre d'associations sur notre territoire œuvrent à l'accueil des migrants en complément de l'action publique. Parce que dans ce domaine, l'époque que nous vivons amène des difficultés croissantes. Nos associations très diverses ont éprouvé le besoin de se fédérer pour échanger sur leurs pratiques et optimiser leur complémentarité. En tant qu'acteurs de terrain, nous connaissons au plus près les réalités souvent ardues que doivent affronter ces habitants de notre ville. De ce fait, il nous semble important de pouvoir vous informer de la manière la plus complète possible des difficultés auxquelles font face les migrants, notamment à Évreux. Aussi, nous permettons-nous par la présente de solliciter une rencontre avec l'ensemble de votre équipe afin d'envisager, dans le cadre des prérogatives qui sont les vôtres, comment nous pourrions contribuer au mieux vivre de ces personnes. Nous vous remercions à l'avance de l'attention que vous porterez à notre sollicitation. En espérant que vous pourrez nous accorder votre attention, nous vous prions de recevoir, monsieur le maire, mesdames et messieurs les adjoints, l'expression de nos sentiments citoyens, le collectif migrant. À ce jour, donc, c'était le 7 septembre, une demande de rencontre donc, en lettres recommandées, nous n'avons pas eu de réponse. Nous avions envoyé le même courrier au préfet qui a reçu des membres du collectif migrant le 7 octobre, soit un mois après. Mais là, on est presque deux mois après, on n'a toujours pas de réponse. Donc voilà. Alors, c'est vrai qu'en tant que maire d'Évreux, monsieur le maire a déjà rappelé que l'accueil des migrants, c'était une prérogative de l'État et qu'il ne souhaitait pas engager les deniers publics de la mairie d'Évreux dans l'accueil des migrants. Ceci dit, il se passe des choses quand même qui sont inquiétantes, voire même révoltantes dans notre bonne ville d'Évreux. Et il serait bon quand même que monsieur le maire s'en soucie. Alors, il y a de plus en plus de personnes qui sont à la rue. Je vous en avais déjà parlé. Ce qui est inquiétant, c'est que ce sont des personnes qui sont en situation de demande d'asile. Alors, cet été, on vous avait alerté sur la situation de Dorcas et ses deux enfants, mais Dorcas, elle avait été déboutée de l'asile. Donc après, quand ils sont déboutés de l'asile, effectivement, ils sortent du CADA, ils se retrouvent à la rue. Il y avait plusieurs familles dans ce cas, dont une famille de Chinoises de Mongolie intérieure qui s'était retrouvée avec un bébé, mais ils étaient déboutés de l'asile. Là, je vais vous parler de gens qui sont enregistrés, qui ont fait leur fiche d'accueil à France Terre d'Asile, et pour lequel, eh ben, il n'y a pas de CAO d'accueil, hein, comme ça s'est fait hier soir. Il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on les laisse dans la rue. Donc, il y a la situation d'une famille qui nous préoccupe beaucoup et dont j'ai envie de vous parler. Donc, je vais vous donner le nom de la famille parce qu'elle est d'accord. Elle est d'accord pour qu'on médiatise son histoire. C'est la famille Matangi Kabu. Donc, ils sont originaires du Congo. Ils sont arrivés la semaine dernière en France, enfin le 19 octobre en France. C'est une famille, donc le père, la mère, deux enfants, un petit garçon de 7 ans qui est asthmatique et une petite fille de 3 ans qui est handicapée physique. Dès qu'on les a vus, les travailleurs sociaux qui ont reçu la famille, que ce soit les gens de France Terre d'Asile, que ce soit les gens du CEFED, nous avons averti le 115. Le 115 a répondu qu'il n'y avait pas de place disponible pour cette famille, même si c'était des gens en détresse et même si c'était une famille vulnérable. Donc face à ce refus, il y a eu un courrier qui a été fait à la DDCS, Direction départementale de la cohésion sociale, donc qui donne les directives au 115 pour les places disponibles. Et malgré ce courrier, il n'y a toujours pas de place pour cette petite fille handicapée, pour que cette petite fille handicapée ait un hébergement décent. Donc la famille est à la rue depuis une semaine. Ils se terrent dans des caves pour pouvoir dormir. Et après, dans la journée, ils sortent, ils vont à la passagère, ils vont là où ils peuvent être à l'abri. Donc je vous demande de prendre le stylo qu'on vous a demandé d'avoir tout à l'heure. Et ça y est, j'ai perdu le numéro de téléphone. Et de téléphoner à la direction départementale de la cohésion sociale. Ça ne va peut-être pas leur faire plaisir, mais ça serait bien quand même de pouvoir leur manifester le soutien à cette famille. Donc c'est la famille Batongui avec la petite fille handicapée. Et donc le numéro de téléphone de la direction départementale de la cohésion sociale, c'est le 02 32 24 86 01. Parce qu'il ne faut pas embêter les gens du 115. Effectivement, c'est un numéro d'urgence pour les vrais appels. Mais je pense que quand même, on peut appeler la direction départementale de la cohésion sociale. Donc, je vous rappelle le numéro.
Redonne-le.
02 32 24 86 01. Alors, il n'y a pas que cette famille-là qui est à la rue. Demandeur d'asile, je vous ai parlé la dernière fois de Nancy. Je ne vais pas dire son nom de famille. Mais Nancy, elle est aussi congolaise. Elle est avec sa petite fille Rémaëlle, qui a 3 ans. Ils sont aussi à la rue, il n'y a pas de solution par le 115, elle est demandeur d'asile. Aujourd'hui, j'ai reçu une famille qui parle en langue anglaise, qui est originaire du Nigeria. C'est une femme avec 3 enfants. Donc les enfants sont nés en 2013, 2011 et 2003. Donc 2013, c'est un enfant de 3 ans. 2011, c'est un enfant de 5 ans. Et 2003, c'est un enfant de 13 ans. Ils sont à la rue, ils sont demandeurs d'asile une procédure normale. C'est même pas une procédure accélérée, parce que des fois, quand il y a procédure accélérée, ça veut dire qu'il y a un doute sur l'identité et que la préfecture veut suspendre les conditions matérielles d'accueil. C'est-à-dire qu'on va instruire leur dossier d'asile, mais on ne va pas leur donner d'allocation de demandeur d'asile, etc. Là, cette femme, elle est dans une procédure normale. Ce n'est pas une procédure à l'accélérer. Elle est à la rue avec ses 3 enfants. On est de plus en plus devant de la détresse humaine. Donc, on a alerté les médias. Il y a un journaliste qui va nous soutenir et qui va faire un article. On a alerté aussi les amis de Principe Actif pour qu'ils relayent l'information. S'il faut, on utilisera les adresses mail qu'on a pu trouver, donc pour alerter la télévision, pour alerter Marisol Touraine, enfin toutes les adresses mail qu'on a, mais c'est pas possible de laisser ces personnes sans hébergement, voilà, pour l'hiver. Et puis il y a quand même une bonne nouvelle, excuse-moi.
Vas-y.
La dernière fois, je vous ai parlé aussi de Mimi, donc Mimi qui était d'origine congolaise et qui est demandeuse d'asile aussi et qui était aussi à la rue. Donc, en fait, on avait fait un courrier à la DDCS et Mimi était enceinte quand même de 8 mois et demi. Donc, finalement, ils ont fini par se dire, tiens, on va quand même la mettre à l'abri. Donc, le courrier a été fait le 7 au soir, mais comme c'était un week-end, ils ont dû la lire le 10. Le 10 au soir, elle était à l'hôtel et à partir du 11, elle a été prise en charge dans un logement qui est tenu par la pause. Elle a accouché le dimanche 16 d'une petite fille et malgré tout son parcours difficile et la détresse de cette jeune femme, elle a appelé sa fille Gloria. Moi, j'en ai les poils qui se hérissent sur la peau.
C'est pas les miquettes que tu as d'habitude ?
Ouais, ben, d'habitude, ça me fout les miquettes, mais là, chaque fois que je parle de Gloria, je vous assure, j'ai les poils qui se hérissent. Et cette petite fille, on lui souhaite bienvenue parce qu'elle a failli naître dans la rue. Elle est maintenant... J'espère que sa maman va pouvoir rester dans un appartement pendant tout l'hiver, mais c'est pas sûr. Et donc, voilà, on lui dédie l'émission à Gloria. Oui.
On rappelle aussi, par rapport à tout ce que vient de dire Claire-Lise, c'est une suite des chroniques qu'elle avait fait aux émissions précédentes, mais c'est bien de répéter à chaque fois et d'amplifier. On rappelle aussi que les gens qui viennent, de toute façon, quelle que soit leur demande de réfugié ou non, quel que soit le motif de leur migration, Ce sont des êtres humains qui ont des droits fondamentaux. Et entre autres, parmi ces droits fondamentaux, quel que soit leur statut, encore une fois, ils ont le droit d'avoir un hébergement décent. C'est marqué dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et donc, il n'y a aucune raison pour que les gens qui viennent, de toute façon, quelle que soit la durée de leur séjour et quel que soit le motif de leur arrivée, ne puissent pas bénéficier de ce minimum de droits, dont celui d'avoir à manger et d'avoir un hébergement décent, surtout avec des jeunes enfants. Voilà, on manque absolument à toutes nos obligations d'être humain si on ne comprend pas ça et si on ne fait pas en sorte d'y arriver.
Et je vous le rappelle, il y a une jurisprudence. Chaque fois que les associations ont porté plainte au tribunal administratif, c'est les associations qui ont gagné, c'est-à-dire que l'État a été condamné. Donc, par exemple, le tribunal administratif de Bordeaux, il y a un référé du 25 novembre 2014, famille à la rue, suite fin de prise en charge, même dans un contexte local de saturation permanente avérée des capacités d'hébergement, l'État, en ne procurant pas d'offres concrètes dans le cadre des conditions minimales d'accueil légalement réservées aux personnes en détresse et sans abri, a porté atteinte au droit à l'hébergement d'urgence. Et donc, ça a été suivi d'une injonction à héberger. Je crois que je vous l'ai déjà dit la dernière fois, je le répète,
oui, oui.
Il y a une... On peut les traîner au tribunal, et donc, je veux dire, je vais être très très méchante aujourd'hui, parce que je suis très énervée. Là, j'ai des miquettes. Ça recommence, mais c'est pas possible, quoi. Alors là, je vous ai parlé tout à l'heure des personnes demandeuses d'asile qui sont à la rue, mais il y a toutes celles qui ont été déboutées du droit d'asile et qui sont aussi à la rue. Et il y a des familles entières. Donc, c'est un scandale. Et donc, on peut faire des belles photos dans le journal en parlant de l'accueil et du CAO qui a été ouvert en juin. Et il y a quand même beaucoup de progrès à faire en matière d'accueil sur le département.
Le CAO, tu nous rappelles ce que ça veut dire, Carly ?
Centre d'accueil et d'orientation. Mais normalement, justement, toutes les personnes arrivant devraient être accueillies dans un CAO. C'est ce qui se passe sur Paris. Mais sur Évreux, non. Ils vont s'ils sont demandeurs d'asile, ils remplissent une fiche d'accueil à France Terre d'asile. Et puis après, ils sont à la rue.
Bien. Quelques secondes de musique pour faire une petite pause.
Être libre, c'est sortir d'une prison pour une autre. Personne ne t'aime, c'est aussi ça, être pauvre. Parfois, on peut déplacer des montagnes sur Neptune. Parfois, changer sa lecture. Passer les automnes et comprendre qu'il n'y a que la passion pour surprendre. Je rêve de stand m'asseoir, mais je bosse dès l'aube et réfléchis chaque soir. Pour scander que nous sommes tous uniques. Au lieu de crier nos différences, j'ai attendu la paix patiemment. Puis elle m'a dit qu'il fallait l'attendre urgemment. Parfois, la liberté passe par un long chemin. Crier d'une autre arme que la voix, que nos futurs espèrent un bon demain. Parfois, mes parents m'ont dit, comme trois pommes j'étais géant. Devant quelques rétines tu seras étrange. Bon, surmonte les apparences, y'a que le bon sens contre la réticence. Notre histoire est construite de chocs thermiques, parce que le destin peut s'écrire en italique. Aujourd'hui on peut tous s'asseoir dans le bus, donc je rends hommage à tous les Spartacus. Je chante que nous sommes tous uniques. Au lieu de crier nos différences, on se plaint de ces jeunes qui n'ont pas de modèle, sans leur dire que l'espoir c'est un battement d'aile. Parfois, la liberté passe par un long chemin. Crier d'une autre arme que la voix, que nos futurs espèrent un bon demain. Parfois, quand on vient de tellement loin depuis si longtemps, le jour du succès ne rend pas si content. Car gravir la noirceur qui ne fait que monter, c'est rester pantois ou se laisser plomber parfois. Je pense aux anciens, ce qui est certain, on doit tous la vie au décès de quelqu'un. Confier son cœur à n'importe qui, tout le temps. L'horizon abdique, cesser de crier nos différences pour chanter que nous sommes tous uniques. Se serrer la main et toujours se dire que parfois la liberté passe par un long chemin. Crier
une autre arme que la voix, que nos futurs espèrent un bon demain. Parfois.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, c'est Mina qui va vous annoncer le disque. C'est pas moi.
Nous venons d'écouter Parfois d'Oxmo Puccino. Voilà.
Renan devait, enfin, doit vous annoncer une bonne nouvelle, parce qu'on rappelle quand même qu'on fait attention dans chaque émission à vous annoncer un certain nombre de bonnes nouvelles. C'est fondamental quand on veut agir.
Ah, tu m'as inversé, c'est pas grave.
Tu voulais faire l'appel à l'action ?
Non, bon, mais alors,
fais comme tu veux, c'est pas grave. Moi, j'avais noté bonne nouvelle, mais si tu veux faire autre chose.
Je vais faire la bonne nouvelle. Alors, si vous vous rappelez, ça fait quelques mois de ça, on vous a demandé d'écrire une pétition par rapport aux enfants de la République démocratique du Congo. On avait fait une pétition à Samsung et Apple.
Oui.
Concernant justement par rapport au cobalt qui est un minerai qui est utilisé dans les batteries de téléphone. Donc, on avait posé la question en deux, qu'est-ce par rapport aux droits humains. Donc, on a eu une réponse, une fois positive. Pour l'instant, Samsung fait le mort, n'a pas répondu, mais par contre, on a une réponse d'Apple. Donc il y a Apple qui est récemment dans un article du Washington Post, pour pas le nommer, a déclaré que 20% de leur cobalt provient de Huayou Cobalt. Ce cobalt se retrouve ensuite dans ses batteries. Comme dévoilé par la recherche d'Amnesty, Huayou Cobalt achète ce cobalt extrait par des enfants. Donc Apple s'est engagé. Apple s'est engagé à travailler avec Huayou Cobalt pour nettoyer la chaîne d'approvisionnement et de régler les problèmes sous-jacents, tels que la pauvreté extrême, les conditions de travail difficiles, le travail des enfants. À partir de l'année prochaine, Apple va considérer le cobalt comme un minerai de conflit et conduire les mêmes analyses de risque que pour l'étain, le tantal, le tungstène et l'or, pour lequel une législation existe. Les aveux et engagements d'Apple montrent que les actions d'Amnesty International ne sont pas vaines. La pétition d'utilisation d'Apple se terminera donc le 15 novembre. Mais par contre, celle de Samsung, elle continue, parce que pour l'instant, le Samsung n'a toujours pas répondu à...
Ouais.
Donc c'est quand même une petite avancée. Ouais.
Pour une petite information, pour ceux qui n'étaient pas au courant de la campagne, effectivement, c'est par rapport au fait que le cobalt et autres métaux rares sont extraits en République démocratique du Congo de façon tout à fait scandaleuse par des enfants dont on ne respecte absolument pas les droits. Et donc, c'est une action d'Amnesty qui avait ciblé les deux principaux fabricants. Hein. Ce n'est pas les seuls, hein, bien sûr, mais c'est les deux principaux fabricants, Apple et Samsung, de téléphones portables, qui sont gros consommateurs de ce genre de métaux. Et pour l'instant, donc, Apple a répondu, comme l'a expliqué Renan, en proposant des avancées. Samsung se tait. Donc, la pétition pour Samsung que vous trouvez sur le site d'Amnesty continue.
Donc, Apple, pour l'instant, comme on dit, la pétition sera le 15 novembre. Mais dans un an, si ça ne bouge pas, il y aura les 10 ans de l'iPhone. Donc, on va relancer notre pétition. Parce qu'Apple, pour l'instant, on dit qu'ils allaient faire quelque chose. Mais on attend.
Oui, on attend. Il faut aussi voir comment ça va se concrétiser. Bien évidemment, on n'est pas naïf à ce point-là. Bien. Tu voulais faire aussi un appel à l'action ? Non ? Je me suis encore trompé là en annonçant ça, ou tu voulais pas le faire maintenant ? Il y a Randon qui réfléchit.
Il va falloir, à un moment donné.
Ah ben, je fais l'appel à l'action parce que je vous rappelle que l'appel à l'action, normalement, on le fait à chaque émission. Et c'est vrai que je crois que les deux dernières émissions...
On n'a pas eu le temps.
On n'a pas eu le temps. Donc là, je me suis dit, on va le faire entre deux pauses, comme ça, moi, on aura le temps. Quoi. Donc là, c'est par rapport à l'Iran et l'exécution imminente d'une Iranienne de 22 ans. C'est comme Van Lokran, une kurde d'Iran de 22 ans risque d'être exécutée à l'issue d'un procès inique au cours duquel elle a été reconnue coupable du meurtre de son mari. Elle avait 17 ans au moment de ces faits. Son exécution pourrait avoir lieu dès le 13 octobre. Donc déjà, dès le 13 octobre, je vous rappelle qu'on est comme le... On doit être le 24 ou 25.
Le
25 octobre. Donc à tout moment, elle peut être exécutée. Donc en fin de compte, elle a été mariée, pour résumer vite fait, elle a été mariée de force à son mari, elle avait 15 ans. Donc c'est elle-même qui a été à la police en déclarant qu'elle avait tué son mari. Et là, il y a eu un procès qui ont décidé qu'on l'exécutait. On ne l'a même pas écouté, on n'a rien fait du tout. Donc en fin de compte, on vous demande comme étude d'écrire. Donc si vous êtes intéressé par cette action, vous pouvez écrire à notre adresse Gmail. Je pense que Didier va se faire un plaisir de nous le dire.
Alors, vous envoyez votre adresse mail à amnesty.evreux, @gmail.com et on vous renvoie la lettre pré-rédigée pour que vous puissiez la faire signer.
Comme d'habitude, la lettre est déjà faite, donc j'aurais plus qu'à marquer vos noms et signer. Voilà pour l'appel. Donc ce mois-ci, je suis content parce que j'ai pu le faire.
Eh bien voilà. Rubrique culturelle. On a Mina avec nous aujourd'hui. Donc Mina est la spécialiste de la rubrique culturelle.
Oui, la culture engagée. Alors.
Mais la culture, c'est toujours engagé quelque part.
Ah bah oui. Aujourd'hui, nous avons un roman pour grands ados et adultes. Ça s'appelle Max de Sarah Cohen-Scali. Donc je vais vous lire le petit résumé. 19 avril 1936, bientôt minuit. Je vais naître dans une minute exactement. Je vais voir le jour le 20 avril, date anniversaire de notre Führer. Je serai ainsi béni des dieux germaniques et l'on verra en moi le premier-né de la race suprême. La race aryenne, celle qui désormais règnera en maître sur le monde. Je suis l'enfant du futur, conçu sans amour, sans Dieu, sans loi, sans rien d'autre que la force et la rage. Je mordrai au lieu de téter, je hurlerai au lieu de gazouiller, je haïrai au lieu d'aimer. Heil Hitler. Donc Max, justement, le roman donc dont je vous parle, de Sarah Cohen-Scali, est bouleversant, rude. Et justement, c'est une façon de ressentir l'atrocité de ce qu'a pu être l'extermination des Juifs, des Polonais pendant la Seconde Guerre mondiale par les idéologies d'Hitler. Max est le prototype parfait du programme Lebensborn, initié par Himmler. Des femmes sélectionnées par les nazis mettent au monde de purs représentants de la race aryenne, jeunesse idéale destinée à régénérer l'Allemagne, puis l'Europe occupée par le Reich. Pour finir, pour vous parler de ce livre, c'est une fable historique fascinante et dérangeante. Très dérangeante même. Je me suis beaucoup arrêtée en le lisant. Parce qu'on commence par le fœtus qui parle dans le ventre de sa mère. Et c'est, voilà, on n'y croit pas. Alors que c'est une fiction. Une lecture choc remarquablement documentée dont on ne sort pas indemne. Voilà pour le premier roman que je vous conseille sur les droits humains, sur l'histoire des droits humains bafoués. Ensuite, c'est Didier qui va vous parler. Je lui ai donné des petits devoirs à faire à la maison.
Un travail de vacances.
Donc, il va vous l'annoncer, il va vous en parler.
Oui, alors Mina m'a donné la dernière fois un bouquin qui s'appelle Adivasi meurtri, et qui est une bande dessinée qui est co-éditée par Amnesty International et un éditeur qui s'appelle La Boîte à Bulles. Ça fait plusieurs bouquins, donc je crois qu'ils paraissent.
Oui.
Mina est plus au courant que moi, j'avoue que je ne lis pas beaucoup de bandes dessinées non plus. Donc voilà. Donc ce bouquin parle d'Adivasi. Les Adivasi, c'est un peuple qui est d'Inde, qui habite dans un état qui s'appelle l'état du Chhattisgarh. Pour une fois, c'est pas Ronan qui va se coltiner les mots imprononçables. L'état du Chhattisgarh en Inde. Et donc, c'est un peuple dont les droits sont bafoués depuis pas mal d'années. Et cette bande dessinée rappelle de façon très, très, comment dire, très tonique et très, très bien documentée. Mais c'est très, très facile à lire et ça se lit d'une seule traite. L'histoire de ce peuple adivasi et tout ce qui s'est passé. Pour ceux qui nous suivent depuis quelques années et qui ont un peu de mémoire, il y a quelques années, dans le cadre de notre campagne annuelle qui s'appelle 10 jours pour signer, on a défendu le cas des militants qui s'occupaient du respect des droits des Adivasi, qui s'appelle Kortam Yaga, un nom comme ça. Je suis désolé si j'écorche un petit peu son nom, mais c'était ça. Et donc, qui avait été emprisonné tout simplement parce qu'il défendait le droit de ce peuple. Et on a obtenu sa libération au bout de quelques mois d'intervention d'Amnesty pour demander sa libération. Voilà. Alors ce bouquin raconte effectivement l'histoire de ce peuple qui a subi beaucoup d'exactions. Il y a plusieurs milliers de réfugiés là aussi, des gens qui ont dû quitter l'état du Chhattisgarh, voilà, en Inde, pour se réfugier dans les États à côté. Je rappelle que l'Inde, c'est une confédération, c'est comme les États-Unis. Donc il y a un certain nombre d'États et qui ont dû quitter parce qu'ils sont en fait entre deux feux. Je vous résume en gros le propos. Ils sont entre deux feux, c'est-à-dire d'une part les autorités du gouvernement central indien, ou hindou, on dit, je ne sais pas comment on dit. On dit hindou ou indien pour l'Inde, je ne sais pas.
Hindou.
Hindou. Qui les accuse d'être manipulés par une guérilla marxiste-léniniste maoïste. Et de l'autre côté, par cette guérilla, effectivement, qui existe, qui veut soi-disant défendre les peuples de, enfin, les droits de ce peuple, mais qui en fait en profite également pour faire un certain nombre d'exactions. Le but derrière tout ça, c'est le pourquoi des massacres et des anicroches qu'il y a régulièrement entre les responsables politiques hindous et la milice politique, c'est pour se partager un certain nombre de richesses, à commencer par les forêts. C'est un état qui est extrêmement boisé, avec des essences assez rares, donc évidemment qui sont pillées de plus en plus, et se partager aussi des minerais. On vous a parlé tout à l'heure d'Apple et du cobalt en République démocratique du Congo. Là aussi, il y a des minerais dans cet état. Ça attire beaucoup d'envieux et de jaloux, et de, etc., etc., et de sociétés plus ou moins multinationales qui veulent mettre la main sur la richesse. Et donc, il y a le peuple autochtone, donc les Adivasis, qui sont pris entre tout ça et qui subissent un certain nombre de massacres, qui sont mis dans des camps. Enfin, c'est toujours pas fini, hein, je vais pas tout vous raconter. C'est toujours pas fini. Amnesty International, qui s'est déjà beaucoup occupé de la question, continue à suivre le dossier. C'est assez compliqué à suivre parce qu'il y a effectivement beaucoup d'interférences. Mais à l'heure actuelle, ce sont toujours effectivement les autochtones qui sont pris en otage, dont ils sont dépossédés de leurs terres et qui sont massacrés à l'occasion ou qui sont mis dans des camps de réfugiés à droite et à gauche. Voilà. Donc le bouquin s'appelle Adivasi meurtri et le sous-titre c'est L'agonie d'un peuple autochtone en Inde. Vous trouvez ça en librairie, hein, c'est là que tu l'as acheté.
Oui. Bien.
Vous le trouverez en librairie à l'heure actuelle et donc c'est coédité par Amnesty International. C'est une lecture que je ne peux que vous recommander.
Pour continuer avec les BD, Etenech, l'Odyssée d'une migrante, de Paolo Castaldi, en coédition aussi avec Amnesty. L'histoire. Etenech débarque sur les côtes de Lampedusa presque 2 ans après son départ d'Addis Abeba en Éthiopie. Elle garde en elle la mémoire d'un voyage infernal entrepris dans l'espoir d'un avenir meilleur. Elle a parcouru le Soudan, le désert du Sahara, a fini dans les mains des trafiquants d'hommes dans une prison en Libye, a traversé la mer Méditerranée à bord d'un canot de sauvetage, pensant à chaque mètre que tout serait en vain. Une BD très bien aussi, qui relate successivement mais intensément toute sa traversée. Et il y a plusieurs témoignages dans la BD, qui est maintenu par un fil conducteur, la traversée des Etenech. Je vais vous lire un propos recueilli de Dagma. Oui, il meurt. Si je pouvais revenir en arrière, jamais je ne referais ce voyage. À chacun de mes pas, j'ai maudit le gouvernement d'avoir ruiné la vie de tant de jeunes, les contraignant à la fuite. Et ce voyage ne peut même pas être comparé à la prison dans mon pays. Si je confronte ce voyage à la prison, je pense que si tu survis à la prison, au moins tu seras un témoin de l'histoire de ton pays, aux yeux de tous. Mais si tu survis au voyage, tu n'es rien, sauf pour toi-même. Tu es seulement quelqu'un qui est parti. Ce voyage est une punition pire que l'enfermement. Cependant, si on part, c'est qu'il n'y a pas d'alternative en Éthiopie. Il n'y a pas les conditions pour se sacrifier ou pour mourir, car il n'y a même pas l'espoir d'un changement. À présent, la mort de l'un de nous en Éthiopie serait un sacrifice inutile. Juste pour rappeler que quand les gens partent, c'est pas leur envie. Ils y sont forcés. Dans le sens, sinon, il n'y a plus de vie. Ils sauvent leur vie.
Ben oui, c'est toujours la problématique pour les gens qui fuient. De toute façon, quelle que soit la raison de la fuite, ils sont obligés de partir.
Et ça serait bien que quand ils arrivent chez nous, ils ont réussi à ne pas mourir en Méditerranée, qu'ils ne se noient pas dans l'indifférence.
Qu'on les accueille décemment. Voilà. Qu'on les accueille décemment. Chose qui n'est pas le cas. Pas trop souvent le cas, malheureusement. Le temps tourne. Donc je pense que Renan était en train de consulter. Renan, il est très distrait, il est en train de consulter je ne sais pas quoi sur son téléphone.
Je suis sur la boutique d'Amnesty parce que c'était un petit peu pour.
Bon, parce que je proposais qu'on fasse une deuxième pause musicale.
Ouais, mais j'allais dire un petit truc quand même.
Bon, vas-y alors.
Parce que tout à l'heure, Mina, elle parlait des livres, tout ça, qu'on pouvait acheter ça en librairie. Mais à la limite, je pense, si à la limite le livre vous intéresse.
Vous pouvez aussi
à la limite, en ligne. Hein.
À la limite. À la limite. Non, ils nous peuvent nous envoyer un petit mail et tout. Et bientôt, qu'est-ce qu'on va faire à Évreux?
Ah oui, la foire.
On a
la foire au livre.
Donc, à la limite.
C'était dans les infos locales.
Dans les infos locales, on va le dire tout
oui,
à l'heure.
Mais oui, mais. Non, non, mais pas pour au livre.
T'as raison.
Pour ceux qui viennent à Amnesty, à la limite, vous nous envoyez un mail, j'en étais intéressé. Et nous, bientôt, on va faire une commande de livre. On pourrait très bien vous le commander. Vous passez nous voir, comme ça, vous. Non, c'est une petite idée que.
C'est bien, Ronan.
C'est une très bonne idée.
Merci, Ronan. Maintenant, un petit cover de.
Bon, j'ai compris
Bob
que
Marley par Tracy Chapman.
Si je ne me suis pas trompé.
Et voilà, Free Little Birds, cover de Bob Marley par Tracy Chapman.
Ah, je suis assez fier de mon passage, là.
Mmh. Oui, et Mina qui a terminé la chanson elle-même. Voilà, on peut l'applaudir.
Ouais, bravo Mina.
Bien, le temps passe, toujours plus vite que ce qu'on souhaiterait, parce qu'on a encore pas mal de choses à vous dire. Je voulais vous parler de la Turquie, je vais y revenir à la prochaine émission. Mais je vais quand même vous lire juste un petit commentaire. C'était suite à, bien sûr, ce qui s'est passé l'été dernier et la tentative de coup d'État et la répression qui en a suivi. Je voulais développer un dossier, j'y reviendrai dans une prochaine émission, c'est pas grave. Mais je vais quand même vous lire un petit communiqué d'Amnesty qui date du 29 août dernier. Après la tentative de coup d'État sanglante, la répression contre la société en Turquie est extrêmement forte et impacte largement en dehors des soutiens au coup d'État. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Fin juillet, 131 médias et maisons d'édition avaient été fermés. Plus de 40 journalistes arrêtés. Plus de 15 000 personnes avaient été arrêtées et plus de 45 000 suspendues ou démises de leurs fonctions. Avec cette répression, un climat de peur s'est installé dans le pays. Grâce à nos recherches, donc les recherches d'Amnesty, nous avons pu alerter sur des actes de torture commis au sein des centres de détention officiels et non officiels turcs. Nos recherches font aussi état de disparitions forcées et d'arrestations arbitraires. De plus, les prisonniers voient leurs droits violés car ils ne peuvent consulter un avocat ou voir leur famille. Face à cette situation extrêmement préoccupante, vous êtes plus de 200 000 à vous être mobilisés pour demander au président Erdogan de ne pas utiliser l'état d'urgence pour réprimer toute opinion dissidente et mener des purges de grande ampleur au sein de la société. Malgré cette forte mobilisation, l'ambassade de Turquie n'a pas accepté de recevoir les pétitions. Nous continuons toutefois à demander un rendez-vous à l'ambassadeur pour lui présenter le résultat de nos recherches et lui réitérer nos demandes de respect des droits humains en Turquie. Voilà, donc j'y reviendrai plus en détail sur ce qui se passe là-bas. C'était juste un petit rappel. Et pour vous dire que même si les médias ne parlent plus de la répression en Turquie à l'heure actuelle, à Amnesty, nous, on s'en préoccupe toujours. Actualité locale. On va terminer par nos prochains rendez-vous. Donc déjà, la prochaine émission. La prochaine émission, Renan, c'est quoi ? C'est quand la prochaine émission ?
Renan, il avait une bonne nouvelle que tu viens de lui zapper.
Oui, c'est vrai.
Que je ne parlais plus.
C'est vrai. Non, mais j'annonce tes informations locales et tu termineras par la bonne nouvelle.
Ouais, et moi,
on
je
va changer un peu.
Ouais, ok. Voilà.
D'accord. Donc, prochaine émission, c'est le 15 novembre. Prochaine émission sur la télé.
Je sais pas,
mardi 15 novembre, 19h-20h. Notre prochain rendez-vous, deux jours après, ce sera le 17 novembre. On est présent avec la scène nationale au Cadran à Évreux à 20h30. On est présent pour une pièce de théâtre qui s'appelle Nobody. C'est ça traite des respects des droits humains dans le cadre du travail. Donc la dignité au travail. Et puis bien évidemment, on a notre foire exposition qui sera le premier dimanche 2 décembre.
Le 2 décembre, 2,
non.
3.
Non, le 3, 4. 4. Le 4. Oh, là, là, là. Oh non, c'est trompé. Oh, le dimanche 4. 4. Le dimanche 4 décembre, ouais, c'est 10h à 19h, notre... traditionnelle exposition artisanale et foire au livre. Et pour la préparer, donc on vous y attend nombreux, évidemment. On y reviendra tout au long du mois de novembre. Mais on vous rappelle aussi que si vous êtes libre, vous pouvez nous donner un coup de main à transporter des livres et à trier des livres et à ranger des livres. Le samedi 5 à notre local, je rappelle l'adresse du local, c'est 3 rue Vigor, c'est à l'espace Saint-Léger. Et si vous avez un petit peu de temps pour nous aider, vous pouvez nous y retrouver à partir de 13h30 le samedi 5 novembre, le samedi 5 novembre prochain, en prévision de la foire aux livres.
Oui, et si vous voulez apporter des livres aussi, parce que justement, on a besoin de livres à vendre pour cette foire aux livres, et donc on est preneur, et donc des fois les gens nous demandent où vous êtes, quand est-ce qu'on peut vous apporter les livres et tout. Et donc là, c'est un samedi après-midi, et c'est le 5 novembre, et on sera présent au local.
Voilà. Et demain, ça c'est très immédiat, demain mercredi, et 26, c'est le vendredi, donc on sera le 28. Octobre, il y a des. Vous allez voir dans les rues, rue Chartrenne, enfin dans les rues principales d'Évreux, des gens avec au couloir d'Amnesty qui vont vous demander d'adhérer si ça vous intéresse, etc. Ce ne sont pas les militants du groupe d'Évreux, mais on va les rencontrer. Ce sont des gens qui viennent faire ce qu'on appelle des recrutements en face à face dans la rue. Donc ils seront présents demain et ils seront présents vendredi. Ils vous donneront, pour les gens intéressés, de la documentation sur Amnesty Évreux. Voilà, on voulait quand même en dire aussi un petit mot. Renan, tu as une bonne nouvelle?
Tout à fait, j'attendais que ça.
Voilà.
Maintenant, pour ne pas faire comme Didier, je devais parler des enfants au biais du Nigeria, mais j'en parlerai à la prochaine émission.
Oui, on aura l'occasion de venir aussi.
On en parlera. Donc, la bonne nouvelle, c'est changement d'état civil. Enfin, une bonne nouvelle pour les personnes transgenres. Donc, c'est une première avancée. La loi pour la modernisation de la justice du 21e siècle adopté le 12 octobre, facilite enfin le changement d'état civil pour les personnes transgenres. Après plusieurs navettes entre l'Assemblée nationale et le Sénat, les députés ont finalement voté pour une procédure sans critère médical et sans condition d'âge. La loi adaptée le 12 octobre a enfin instauré un cadre juridique pour les personnes transgenres qui souhaitent modifier leurs documents d'identité afin qu'ils soient conformes à leur apparence.
Voilà. Donc, je complète ce que vient de dire Renan. C'est une avancée. Pour autant, pour Amnesty, ce n'est pas encore tout à fait suffisant. Parce que ça supprime toute notion de contrôle médical pour les personnes transgenres. Mais Amnesty précise que donc, ce qui serait souhaitable, ce serait qu'on adopte une législation comme il y a en Norvège, en Argentine ou à Malte, où simplement la simple déclaration de la personne qui veut être transgenre, donc changer de sexe, suffit pour que son état civil soit modifié. Donc, c'est ce que souhaite obtenir Amnesty. On remercie quand même Monsieur Jean-Louis Destan, le député, parce que moi je lui avais écrit au niveau d'Amnesty Évreux, justement par rapport à cette loi qui était rediscutée à l'Assemblée nationale, et il m'a répondu aujourd'hui, ce que vient de vous expliquer Renan, effectivement, les points qui ont été adoptés par le Parlement aujourd'hui. Il m'a répondu aujourd'hui en me disant, j'espère que cette nouvelle rédaction de la loi vous donnera entièrement satisfaction. Alors oui, ça nous donne satisfaction. Pour autant, on aimerait bien que les derniers contrôles, entre guillemets, pour ces personnes-là soient supprimés.
Et chers auditeurs, tu es très attentif.
Chers auditeurs et chers auditeurs,
tu es très attentif. Mais nous n'avons pas souvent des nouvelles de ce que tu penses de notre émission. Alors, téléphone, donne des nouvelles, envoie-nous des mails, chers auditeurs, pour nous dire ce que tu en penses. Et n'oublie pas de téléphoner à la TTCS.
Vous pouvez aussi laisser votre opinion sur le site de Principe Actif, il y a une rubrique réaction à l'émission.
Voilà. Sur ces mots-là, on se dit au 15 novembre.
Oui.
Bonne soirée. Bonne soirée.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.